Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour votre libre antenne du dimanche. Ce moment particulier dans lequel c'est vous qui prenez la parole pour venir partager avec nous des moments de vie, des expériences, des questions. Soirée de confidences et d'échanges à la fois intimes et anonymes, parce que l'anonymat nous permet bien sûr de nous dévoiler davantage. Rapports roulés en famille, deuil, addiction, traumatisme, maltraitance, dépression, stress. Nous abordons ici tous les sujets qui vous concernent, tout ce qui fait la vie, votre vie. Pour me rejoindre sur cette libre antenne, un seul numéro de téléphone, le 3921. Estelle et Théo sont prêts à vous accueillir. Ils sont là au standard d'Europe 1. Vous savez que vous pouvez aussi participer par SMS à l'émission. Vous faites le 73921 en commençant bien par le mot nuit. Vos SMS toujours pour apporter un soutien, un témoignage, un conseil. Parce que cette libre antenne, c'est aussi une grande famille que je souhaite toujours bienveillante et positive. À propos de famille, c'était la fête des grands-mères aujourd'hui. J'embrasse donc très fort toutes les grands-mères, d'autant que je n'ai plus la chance d'avoir les miennes. Nous sommes ensemble et en direct donc jusqu'à 1h du matin et c'est Fabrice Fougerousse qui réalise notre émission.
23h, 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Et ma question du jour évidemment est la suivante, êtes-vous proche de votre grand-mère et si c'est le cas, dites-moi comment elle est, parlez-moi un peu de votre grand-mère, répondez-moi si vous le souhaitez par SMS, 739-21 suivi du mot nuit et de votre réponse. Et mon premier appel ce soir est l'appel d'Edith. Bonsoir Edith.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci, je suis enchantée de vous avoir au bout du fil.
Mais moi aussi.
Parce que je vous écoute, enfin j'écoute l'émission presque tous les soirs. Mm-hmm. Et puis en particulier le week-end quand vous êtes à l'antenne.
Merci, c'est gentil.
Bon, moi je voulais vous poser une petite question sur la dernière intervenante d'hier soir. Qui avait une addiction au chocolat.
Au sucre, oui.
Au sucre et au chocolat, je crois, non ?
Oh, tout ce qui était sucré.
Oui. Ben moi aussi, j'ai une addiction, malheureusement, à la cigarette et au sucre, à ce qui est sucré aussi, et surtout le soir. Et vous avez parlé d'hypnose.
Oui.
En parlant des lobes du cerveau, est-ce que pour une gauchère, c'est l'inverse ?
Oh, je crois pas, non.
Non ?
Non. Sur la partie consciente et inconsciente du cerveau, ça n'a rien à voir avec le côté droitier ou gauchère.
D'accord, c'est ce que je voulais vous demander.
Non.
Et puis ensuite,
Pardon, mais juste sur le fonctionnement des addictions, par contre, c'est la même chose.
Hein. C'est-à-dire ?
C'est la partie inconsciente de soi qui nous fait gérer ce comportement-là. Quand je disais hier, quand on dit c'est plus fort que moi, c'est pas la volonté, c'est pour ça que la volonté n'y peut pas grand-chose. Le plus fort que vous, c'est une partie inconsciente qui vous fait avoir un comportement que vous jugez inapproprié. En l'occurrence, chez vous, c'est la cigarette, chez elle, c'était le sucre.
Ouais.
Et qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ça ? Oui, vous me parliez d'addiction au sucre, particulièrement le soir aussi, vous ?
Oui.
Est-ce que vous vivez seul ?
Oui.
C'est souvent le cas.
Ah
c'est-à-dire qu'on mange ses émotions. Et oui. On gère ses émotions avec le sucre. Allô ?
Ah,
vous êtes
oui, je vous écoute. Je suis en train de réfléchir.
Et autre chose aussi d'intéressant à comprendre, c'est que les fumeurs sont souvent comme des enfants qui ont besoin d'être rassurés. Les fumeurs.
Les fumeurs.
Et ils se rassurent en têtant leur cigarette comme s'ils têtaient leur maman. Aïe.
Ah.
Voilà une image désagréable.
Ouais.
Eh oui, je sais.
Oh là là, il va falloir que j'y pense, oui.
je sème des petits trucs comme ça, après vous y réfléchissez.
D'accord.
Mais je crois que c'était pas le but de votre appel, en tout cas, tout ça.
Pardon ?
Ça n'était pas le but premier de votre appel, je crois.
Hier soir, non, j'avais essayé hier soir Et puis finalement, ça s'est rajouté, là, ma première question. Là. Mon but hier soir était de... Bon, j'ai été souffrante pendant très longtemps. Et il y a une méthode qui m'a beaucoup aidée, dont je voulais vous parler. C'est une méthode... Oui, parce qu'il y a quelques semaines, il y avait une intervenante qui vous avait parlé. C'était une mythomane. Pendant le festival d'Avignon, elle remontait 2-3 fois la semaine à Paris pour aller voir son psy, et elle était toujours mythomane. Vous vous souvenez d'elle ?
Vous êtes sûr que c'est avec moi qu'elle est passée ?
Pardon ?
Vous êtes sûr que c'est avec moi qu'elle est passée ?
Je crois que oui. Bon, enfin, ça fait rien. Et puis, elle m'est restée en souvenir, cette fille, mais je connais, j'ai pratiqué une méthode de communication non verbale qui l'aurait bien aidée. C'est un travail avec l'argile. Je ne sais pas si vous connaissez cette méthode.
Non, mais racontez-moi, ça m'intéresse.
Oui, je suis sûre que ça allait vous intéresser. On travaille, alors c'est un plateau rempli d'argile, comme un plateau à servir, vous voyez, d'une hauteur de 5-6 cm, qui est rempli d'argile à ras-bord. Vous êtes assis devant et vous fermez les yeux et vous laissez vos mains prendre contact avec l'argile.
Oui, comme une sculpture un petit peu.
Comme une sculpture, mais comme vous avez les yeux fermés, vous ne voyez pas ce qui se passe. Il y a une praticienne, une thérapeute qui est assise à côté de vous, et vous avez aussi une bassine remplie d'eau à côté de vous.
Est-ce que ça se fait en groupe ou en duo?
Oui, ça se fait en groupe, mais ça se fait individuellement aussi.
D'accord.
Vous pouvez donc utiliser l'eau pour vous laver les mains ou pour prendre contact tout d'abord avec l'argile. Et il se forme une gestalt, un mot qu'on ne peut pas traduire, un mot allemand.
C'est ça qu'on appelle la gestalt-thérapie ?
Voilà.
Ah d'accord, je n'avais pas fait le rapprochement. Je connaissais le nom, mais pas la pratique. D'accord.
Voilà, c'est un dérivé de la gestalt-thérapie. Oui, le professeur qui a développé ça, c'est un Allemand, et il partait de ce principe-là. Et c'est un travail qui est très peu connu en France. Et je voulais vous en parler parce qu'il y a une association qui, en France, qui offre cette méthode-là. Mmh. Alors, à la fin du travail, vous sentez au bout de, disons, 20 minutes environ, que vous avez terminé, que vous avez abouti à votre gestalt, et puis vous ouvrez les yeux, et la thérapeute qui est assise à côté de vous, elle vous accompagne pendant tout le travail, et puis après vous en discutez ensemble, et elle peut vous dire dans quelle phase de développement personnel vous vous trouvez.
Alors j'aurais deux questions déjà à ce stade-là. Est-ce que quand vous démarrez avec une intention précise, au moins dans votre esprit ?
Non, vous laissez vos mains faire.
D'accord. Et est-ce que vous parlez, vous, pendant ce laps de temps ?
Non, mais la thérapeute peut vous parler, vous accompagner.
Elle, oui, mais vous ne parlez pas.
Vous pouvez lui répondre.
D'accord.
D'accord.
Ok, donc vous laissez le corps s'exprimer, les mains.
Voilà.
Mmh. Et qu'est-ce que ça donne à la sortie, par exemple ?
À la sortie, il y a une gestalt qui s'est formée. Et vous en parlez.
Oui. C'est un support, en fait, finalement, un support symbolique.
Oui. C'est une méthode. Et puis, vous ne refaites jamais deux fois la même chose. Alors, et vous pouvez continuer ou retravailler sur l'argile, une semaine plus tard, ou bien 2 mois plus tard, ou bien 6 mois plus tard, et vous reprendrez toujours la suite de l'événement.
D'accord. Alors, spontanément comme ça, je me dis que c'est une méthode qui doit être très bien pour les kinesthésiques. Vous savez que nous avons cinq canaux de communication, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et nous en avons tous un prioritaire. Moi, par exemple, je suis visuelle en canal prioritaire. Je ne suis pas convaincue qu'une thérapie par le toucher me conviendrait. Par contre, il y a quelqu'un qui est kinesthésique, c'est extraordinaire. Qui a besoin d'être dans le toucher, justement, dans le ressenti.
Oui.
C'est quelque chose qui doit être extrêmement approprié.
Oui. Mais quelqu'un qui a des difficultés dans le contact, justement, je pense que vous pouvez le faire entrer dans le contact par cette méthode-là.
Oui, bien sûr aussi, mais si ce n'est pas son canal prioritaire, je ne suis pas convaincue que ce soit forcément le plus simple. Mais bon, après, ça sera un autre débat. Mais est-ce que vous voulez bien m'en dire un peu plus sur vous? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre et d'évoluer?
Alors moi, ça m'a... J'ai abouti dans un groupe, tout à fait par hasard, à une période où j'allais très mal suite au décès de mon père, où je me trouvais très mal. Et quelqu'un m'a dit, oh, si tu arrives à avoir une place là dans le groupe, tu verras, t'auras tapé le gros lot, quoi. Et j'avais des migraines à cette époque-là. C'était il y a 20 ans, 25 ans de cela. J'avais des migraines régulièrement toutes les semaines. Et j'ai surmonté toutes mes migraines. Enfin, après plusieurs séances, bien sûr, hein, le groupe consistait en peut-être 6 ou 7 séances, une par semaine. Et au bout de 10 séances environ, parce que j'ai continué ensuite avec des séances privées, au bout de 10 séances, je touche du bois, je n'ai plus jamais eu une migraine depuis. Mais... c'était un peu comme une séance homéopathique parce que j'étais très malade après chaque séance. Chaque séance, je refaisais une migraine à chaque fois. Mais je savais que ça allait passer, je savais d'où ça venait. J'avais fait ressortir quelque chose dans le travail, en travaillant avec l'argile.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que finalement, ce n'est pas une manière de faire sortir de soi quelque chose qui était resté coincé?
Voilà. Oui.
Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant.
Oui, c'est vraiment très intéressant.
Alors, pour être honnête, j'en ai entendu parler une fois parce que j'ai une de mes patientes qui pratique ça. Mais j'en ai jamais parlé avec elle. Je sais qu'elle le fait parce que sur sa fiche, j'ai vu que ça faisait partie de ce qu'elle faisait. Elle ne me l'a jamais expliqué longuement parce que ce n'était pas le but, évidemment, de nos rendez-vous.
Oui.
Mais c'était la seule fois où j'ai entendu ça en France. Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a l'air très courant chez nous, en tout cas.
Non, malheureusement, mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'auditeurs, par exemple, qui s'intéresseront à cette méthode et qui pourront éventuellement prendre contact avec l'association.
Mais elle a un site, cette association ?
Oui, je veux bien vous le donner.
Allez-y lentement, que les gens puissent le noter, s'il vous plaît.
Oui, www.adcap, alors ADECAP.com.
D'accord.
Ça veut dire Association pour le développement du champ d'argile en psychothérapie.
D'accord. Et vous êtes en Allemagne ou en France?
Moi, je suis en Allemagne, là, aujourd'hui. Hier, j'étais encore en France chez ma mère. Je suis rentrée chez moi aujourd'hui. J'ai fait 500 km en voiture aujourd'hui.
Ah ben, je vous remercie d'être là. C'est vrai qu'hier soir, j'avais votre fiche, mais on avait trop de monde. Je n'ai pas réussi à vous recevoir sur l'antenne.
L'émission était un peu courte.
Ça a failli recommencer ce soir, j'ai eu peur. Mais ça va. Ils nous ont pris quelques minutes, mais pas trop quand même ce soir. Ça a été.
Oui.
Bon, c'est gentil que vous soyez là. Vous ayez pu revenir ce soir en tout cas.
Oui.
Et est-ce qu'autour de vous, vous avez prêché la bonne parole? Est-ce qu'il y a des amis à vous qui ont bénéficié de ça, par exemple?
Ah oui, bien sûr.
Alors, dites-moi, ça m'intéresse, dites-moi dans quel cas, je sais pas, c'est des maladies, des dépressions, du stress, en quoi ça, pour quelles raisons les gens viennent faire ça, principalement, d'après vous?
Écoutez, moi, ça m'a tellement ébahi, cette méthode, que j'ai voulu faire la formation aussi. Donc, j'ai commencé la formation en 94 et... je connais donc beaucoup de pratiquantes, de praticiennes. Et moi, je sais que j'aime bien retourner voir une collègue de temps en temps pour savoir où j'en suis.
Mais sinon, majoritairement, les gens viennent pour quelles raisons au départ ?
Eh bien, pour chercher, pour trouver, pour savoir où vous en êtes, ou bien, par exemple, je sais pas, je vais peut-être vous donner un petit exemple, des personnes qui, il faut pratiquement travailler avec toute la main, avec le bas de la main aussi. Le bas de la main. Il y a des personnes qui ne travaillent qu'avec le bout des doigts.
Et ça, la thérapeute en fait quelque chose, alors. C'est, oui, pour elle, c'est révélateur de quelque chose.
Voilà. D'accord. Parce qu'il faut, vraiment faire aboutir la personne à utiliser le bas de la main. Ça correspond au bas du ventre, par exemple.
Ah d'accord, il y a des liens comme ça.
Voilà, okay. Voilà.
Ce serait comme une morphopsychologie extériorisée, pratiquement.
Oh, vous exprimez ça super bien. des termes que je ne connais pas en français, mais ça correspond à ce genre de travail.
D'accord. Bah, écoutez,
Le site, vous trouverez des tas de praticiens qui utilisent cette méthode en France, et en Belgique, et en Suisse aussi.
D'accord. Bah écoutez, Edith, je vous remercie beaucoup d'être venue partager ça avec nous. C'était original et intéressant.
Je vous remercie de m'avoir écouté.
Et grâce à vous, on a appris pas mal de choses ce soir, en tout cas.
Bah, j'espère, mais de toute façon, moi j'apprends toujours, et tout le monde apprend aussi, grâce à vous.
C'est
beaucoup
gentil.
De choses.
C'est gentil.
Oui, oui, oui.
La vie est un échange et un apprentissage permanent.
Voilà, jusqu'au bout.
Exactement.
Jusqu'au dernier souffle.
Exactement.
Voilà.
Merci mille fois de votre appel, Edith.
De rien. Merci, Sabine, de m'avoir écoutée.
Bonne soirée.
Au revoir. Bonne nuit.
C'est le numéro de téléphone à composer si vous souhaitez venir me parler ce soir. Et je vous rappelle que ça ne vous coûte quasiment rien. 50 centimes d'euros la minute, c'est ce qu'on vous dit, mais on vous rappelle immédiatement quand vous nous joignez. Estelle et Théo sont là, ils attendent vos appels. Bien évidemment, quand on vous rappelle, ça veut dire que toute la communication est à nos frais. Voilà, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant quelquefois. C'est Lucie que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir Lucie.
Oui, bonsoir Sabine.
Bienvenue à vous.
Merci, je suis un petit peu émue d'être à l'antenne.
Ça va bien se passer.
Merci.
Je me pousse et je vous fais une petite place à côté de moi dans le studio.
Merci beaucoup. Alors, je voulais parler, moi, ce soir, de un problème qui me touche depuis pas mal de mois. Ça commence à compter en années. Je souffre d'une dépression un peu sévère.
Et la même ou c'est des répétitions ?
Non, j'ai pas réussi à remonter. Ah. Et je suis encore à nouveau dans une période où je suis à nouveau dans le creux de la vague. Puisque c'est compliqué au niveau de la prise en charge médicamenteuse parce que je fais beaucoup d'effets secondaires, d'effets indésirables et du coup on est amené à me modifier le traitement.
Alors dites-moi un petit peu plus, ça a commencé à quel âge et dans quel contexte ?
Alors ça a commencé il y a 2 ans et en lien avec une problématique professionnelle de harcèlement moral.
D'accord.
Et c'est quelque chose qui m'est tombé dessus où j'avais pas du tout j'avais rien vu venir et puis ça s'est installé et
comment ça s'est manifesté au tout début?
Par des attentes toujours de plus en plus des attentes démesurées de la part de ma hiérarchie. Dans un contexte de milieu professionnel difficile et avec, je vous dis, avec des attentes et puis après, surtout enfin, à la fin, avec une verbalisation d'insatisfaction de mon travail, voire de non-compétence, d'un manque de compétence.
D'accord. Alors, je vais reformuler ma question. Quand je vous dis comment ça s'est manifesté, je parlais dans votre corps ou dans votre esprit, chez vous. Quand est-ce que vous avez senti que vous commenciez à perdre pied et pourquoi ? Le pourquoi, je l'ai compris, mais le comment est-ce que vous vous êtes dit un matin, ça commence à plus aller du tout physiquement, par exemple ?
Disons que j'avais beaucoup de mal à aller au travail, quoi. Beaucoup d'angoisse, de stress, de mal-être, du mal à me lever, beaucoup d'anxiété. Et puis un jour, je suis rentrée en pleurs et je me suis dit, demain, je peux plus y aller.
C'est trop dur. Lucie, pardonnez-moi, mais on me dit en régie qu'il y a un écho derrière vous. Est-ce que vous avez laissé la radio allumée?
Sur mon ordinateur, mais pas sur...
Est-ce que vous pouvez couper le son, s'il vous plaît?
Ouais, d'accord.
Il semblerait que ça résonne et qu'on entende ma voix en double.
D'accord. Est-ce que c'est mieux, là?
Alors, est-ce que c'est mieux, Fabrice? Ça a l'air. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Oui, donc vous m'avez dit, il y a un matin où le corps a commencé à vous faire comprendre que ça n'allait pas être possible.
Voilà, tout à fait.
Ouais. Et là, comment ça s'est passé alors?
Et là, donc, comme je vous dis, donc, je suis rentrée en pleurs chez moi. Et pour moi, je me suis dit, demain, c'est plus possible de retourner au travail. C'est plus possible et ça a commencé, quoi. Ça a commencé cette descente aux enfers. Pour moi, ça, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Est-ce que vous avez compris tout de suite que c'était un burn-out?
C'était pas un burn-out, c'était un harcèlement. C'était un harcèlement, quoi. Moi, je l'ai senti comme ça, je l'ai vécu comme ça.
Mais la dépression, est-ce que vous avez mis un mot dessus tout de suite?
Non, c'est vrai que je...
Au départ, non, en tout cas.
Au départ, je me suis sentie dans une période peut-être plus fragile, plus... Et que j'allais surmonter cette période, quoi.
Donc vous n'avez pas spécialement été voir un médecin ou un psy tout de suite?
Alors je suis allée voir juste mon médecin traitant pour lui faire part de ce que je vivais, donc pour qu'il m'a mis en arrêt de travail et puis bon et qui m'a envoyée vers un psychiatre, quoi.
Et vous savez, la dépression, souvent, c'est quand on n'a pas réussi ni à fuir ni à se battre contre une situation. La seule option qui reste, c'est l'inhibition, c'est-à-dire que tout s'arrête. C'est comme si on débranchait la prise d'un seul coup.
Oui, c'est vrai que ça me parle, ce que vous dites, c'est tout à fait.
On a tenté la fuite, on a tenté le combat, et quand rien n'a marché, on s'arrête. Et c'est comme si le corps disait stop, temps mort, j'y arrive plus.
Exactement. Ouais. Exactement, je me retrouve dans vos paroles.
Donc ça, c'était il y a 2 ans, j'imagine, qu'on a commencé à vous donner des médicaments. C'est là que ça n'a pas fonctionné, c'est ça?
Oui, voilà.
Trop d'effets secondaires pour vous?
Voilà, j'ai eu des petites périodes où ça fonctionnait. Et puis, des moments où il fallait arrêter, donc il fallait faire une pause. Et entre-temps, il fallait vivre avec toutes ces angoisses, avec tout ce mal-être.
Attendez, j'ai pas bien compris. Faire une pause, pourquoi? À cause des effets secondaires, c'est ça?
Ouais, à cause des effets
secondaires. C'était quoi ces effets secondaires-là, par exemple?
Par exemple, j'avais des problèmes, j'étais un peu figée, un peu comme les patients, les gens qui ont le Parkinson. J'étais figée, j'étais raide, j'avais des problèmes de raideur musculaire. Donc c'est vrai que c'était difficile à assumer physiquement, quoi.
Et est-ce que vous avez pris du poids aussi?
Non, de ce côté-là, non.
Quelquefois, on peut prendre beaucoup de poids à cause des antidépresseurs. Ce qui, paradoxalement, nous fait déprimer encore plus, d'ailleurs.
Oui, exactement. Non, de ce côté-là, ça a été. Et puis, j'arrive là... Un moment où je me dis que je vois toujours pas le bout du tunnel, je vois toujours pas, j'ai pas de vision sur l'après, quoi.
Alors attendez, donc il y a 2 ans ça a commencé. Depuis, est-ce que vous avez vous n'avez jamais remis les pieds au boulot?
Non, du tout.
C'est quoi? C'est une convention de départ ou c'est un arrêt maladie de longue durée?
Non, je suis toujours en arrêt maladie.
Ah oui, donc ça veut dire que quelque part il y a toujours au fond de vous cette idée que c'est pas terminé avec eux.
Exactement.
Comment voulez-vous que la dépression s'en aille, puisqu'elle a transmis un message qui est toujours en suspens, là?
Oui, tout à fait.
Comment c'est envisageable, ça? Vous pourriez négocier quelque chose?
Alors, j'ai lancé une procédure, j'avais lancé une procédure, mais qui n'a pas abouti. Parce que, bien sûr, difficile d'avoir des témoignages de collègues, etc. Et donc... Personne n'a voulu aller en ma faveur, quoi.
Dans quel secteur professionnel êtes-vous, sans donner de trop de détails, mais juste que je me rende compte?
Dans le social.
D'accord. Voilà. Dans un bureau la journée?
Oui, tout à fait. Voilà, dans un milieu où je me sentais à l'abri, quelque part, de ces problématiques. Je me disais que ça ne devait pas arriver, quoi, dans ce genre de domaine professionnel. Je me sentais un peu à l'abri. Et puis, le fait que j'investissais énormément dans mon travail, où j'avais besoin de cette reconnaissance, de foncer dans cette activité professionnelle, dans une fuite sûrement aussi de difficultés dans ma vie affective aussi.
Mais vous savez, la majorité des gens qui font une dépression à cause du boulot sont comme vous, sont très investis. Parce que ceux qui ne le sont pas, ne sont pas touchés par ce qui se passe.
Ouais.
Et donc, du coup, ils ne font pas de dépression parce qu'ils sont beaucoup moins affectés. Donc, vous avez tout à fait le profil, effectivement, de la cible idéale pour une dépression, quoi.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup d'affectifs dans le travail, alors que normalement, il ne doit pas y en avoir.
Exactement. Exactement. J'avais, je me sentais reconnue. Je retrouvais une reconnaissance que j'ai pas eu de par mon dans mon enfance, avec une éducation très rigide.
Et du coup, sans cette reconnaissance-là, vous n'existez plus.
Exactement.
Mais ça, c'est ça c'est complètement faux. Il va falloir faire taire la petite voix qui vous raconte ça.
Voilà. Ouais, tout à fait. J'étais dans cette logique-là. J'avais besoin de cette reconnaissance professionnelle.
C'est bien de l'avoir compris et constaté, c'est déjà énorme.
Ouais. Donc il faut que je travaille ça aussi, alors.
Ah bah ça me paraît essentiel, parce que c'est totalement faux, vous l'avez compris, vous avez compensé quelque chose, mais dans le travail, il n'y a pas d'affect. On peut s'entendre bien avec ses collègues, ça peut très bien se passer, et c'est bien sûr recommandé, et tant mieux. Mais la reconnaissance de ce que vous faites est importante, de qui vous êtes, ça ne les concerne pas. Et c'est là où on a tendance évidemment à tout mélanger. Quand on cherche une reconnaissance sur qui on est, le jour où le travail, où ça ne marche plus, où ça s'arrête, alors on n'est plus rien.
C'est ça.
Mais ça, c'est n'importe quoi, ça.
Ah,
mais ça ne me plaît pas du tout.
C'est tout à fait.
Je suis pas d'accord.
Ouais.
Votre valeur, elle dépend pas d'eux, hein.
Ben ouais, j'ai fonctionné comme ça pendant beaucoup d'années, quoi. Je m'accrochais à ça. Je m'accrochais à ça pour.
Mais ça, c'est une illusion. C'est une blessure qui une partie de vous qui est blessée qui parle comme ça.
D'accord.
Mais si vous commencez à le comprendre, ça c'est drôlement bien. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'image là. Vous voyez quelqu'un. Mettons, imaginez un bûcheron qui est un excellent bûcheron. Il est super doué pour ce qu'il fait, il travaille très très bien. Sauf que il a un patron qui trouve qu'il ne travaille pas bien. Est-ce que ça va enlever sa qualité, ses compétences? C'est juste l'opinion d'une personne en face? Ça ne change rien à ce qu'il fait même, et à ses qualités?
Voilà, mais j'ai l'impression de me retrouver avec ce que vous dites, avec l'exemple que vous donnez. J'ai l'impression de me retrouver dans le fait d'avoir saboté, comme si on avait saboté les valeurs que j'avais, quoi, les valeurs, les compétences, les qualités.
Ben non. Mais vous, là, on parle d'une personne ou de plusieurs personnes qui ont joué à ça avec vous?
Deux personnes.
Deux. Mais vous vous rendez compte de l'importance que vous leur donnez à ces gens-là, si vous les laissez vous salir?
Ben oui.
L'importance que vous leur accordez? Comme si leur avis était plus important que votre avis sur vous-même.
Ouais.
Comme si ces gens-là avaient plus de valeur que vous. Alors que j'ai l'impression qu'ils en ont beaucoup moins.
Oui, vous avez raison, parce que finalement, la manière dont ils ont agi, en fait, pour moi, maintenant je les considère comme des pervers, j'ose le dire.
Mais voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais faites très attention à quelque chose, Lucie. Vous savez, une dépression vient toujours nous dire que quelque chose ne va pas dans notre vie. Et comme je le répète souvent, si vous ne changez rien, rien ne changera. Si vous n'arrivez pas à changer, en l'occurrence, je crois que le message est clair sur ce qui ne va pas dans votre vie, c'est vraiment ce travail-là. La dépression restera comme un couvercle, si vous voulez. C'est presque une manière de vous protéger, cette dépression.
D'accord.
Parce que tant que je suis en dépression, eh ben, j'y retourne pas et j'ai pas à les affronter. Et je suis persuadée que si vous arrivez à sortir de ce truc-là d'une manière ou d'une autre, par un départ négocié, par je sais pas que...
Oui, dans ma tête, c'est ce que j'envisagerais quand même.
Voilà. Et la dépression disparaîtra à ce moment-là, vous verrez.
Donc c'est oui, de fait de vouloir tourner la page, quoi.
Exactement. Il est clair que ce qui vous a fait du mal, c'est ça. Et donc le risque d'y retourner fait peut-être qu'inconsciemment, vous ne pouvez pas guérir pour l'instant. Parce que si guérir, ça veut dire y retourner, c'est pas admissible pour une partie de vous.
D'accord.
C'est quelquefois très inconscient, mais là, ça frôle le conscient déjà, je pense, chez vous, tout ça. Vous le percevez.
Oui. Mais là, vous avez quand même pointé du doigt certaines choses dont je ne mesurais pas l'importance.
Mmh.
Et je voulais vous faire part également du coup de tout ce que ça a remis en question dans mes pensées, et notamment le fait que je me suis mis à parasiter un peu. J'ai l'impression de parasiter mes pensées,
oui,
avec le fait d'avoir fait des mauvais choix, d'avoir des doutes sur des choix que j'ai pu faire dans le passé, notamment justement au niveau professionnel.
Mmh.
Des choix de vie aussi. Des choix de vie. Donc du coup, je me remets en question même sur tout ça.
Est-ce que vous allez me parler de culpabilité dans 5 minutes ?
Pardon ?
Est-ce que vous allez me parler de culpabilité dans 5 minutes ?
Voilà.
Je la vois poindre à l'horizon, là.
Voilà, c'est ça.
Bon, vous savez ce que j'en fais de la culpabilité ?
Non.
Alors, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous avez volontairement cherché à vous faire du mal en disant je vais prendre des mauvaises décisions, comme ça je vais me pourrir la vie?
Non.
Bon,
non.
Donc vous n'êtes coupable de rien. On est coupable quand on fait volontairement quelque chose de nuisible.
D'accord.
Vous n'avez pas cherché à vous nuire, vous n'avez pas cherché à volontairement vous pourrir la vie. Vous avez fait des choix qui peut-être n'ont pas été les meilleurs, mais à l'époque où vous les aviez faits, vous n'aviez pas les informations que vous avez aujourd'hui. C'est facile quand on se retourne de dire « bah oui, mais j'ai pas fait le bon choix ». Bah oui, mais si à l'époque j'avais les informations et l'expérience que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait ces choix-là, mais on est tous comme ça.
Et comment faire pour faire un petit peu, voilà, pour éloigner ces pensées, pour accepter justement ces...
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est de commencer à être douce et bienveillante envers vous-même. Parce que ça, ressasser nos erreurs, c'est de l'autoflagellation. Non seulement je vais mal dans le présent, mais je vais continuer à me faire du mal en ressassant ce que j'ai raté dans le passé. Ça ne sert à rien.
D'accord.
Si ce n'est, si vous êtes capable d'en tirer des apprentissages positifs. Voilà. J'ai commis telles erreurs, au moins j'ai appris. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en se trompant.
D'accord.
Et j'aime bien dire que chaque erreur est un apprentissage, et j'aime bien couper le mot apprentissage en deux.
C'est-à-dire
apprenti, sage.
Ouais. Apprenti, sage, d'accord.
C'est comme ça qu'on devient sage, c'est à force de faire des erreurs et d'en apprendre quelque chose.
D'accord.
La deuxième chose, c'est que quand vous avez cette espèce de rumination mentale là, qui vous pourrit la vie,
ouais,
changez d'activité tout de suite. Allez faire un peu d'exercice, allez écrire, allez écouter un disque. Ne restez pas dans ça, occupez votre esprit tout de suite. Comme pour lui dire stop. C'est bon, j'ai compris, tu vas me repasser le même disque, ça ne m'intéresse pas.
D'accord.
Hein, c'est une première chose. Et puis aussi, est-ce que vous avez commencé à essayer de faire un peu de méditation ou de méditation accompagnée ?
Non.
Ça vous ferait du bien, ça.
Méditation accompagnée, d'accord.
Il y en a beaucoup sur Internet, des méditations guidées, qui sont gratuites.
Oui.
Et qui permettent aussi de retrouver un peu de calme mental, d'apaiser son mental. Parce que quand on est en dépression, c'est un peu le hamster dans sa roue. Et qu'on a du mal à arrêter, si je comprends bien votre manière de fonctionner, qui est classique hein, quand on ne va pas très bien comme ça. On a du mal à appuyer sur le bouton pause tout seul.
Ouais, c'est vrai.
Et ces méditations-là permettent ça, vraiment.
Les méditations accompagnées, alors.
Ben, je vous dis ça parce que quand on n'a pas l'habitude de méditer, c'est souvent plus facile de le faire en étant accompagné par une voix.
D'accord.
Méditation guidée, je crois que Christophe André en fait beaucoup. Et puis Maud Pajot, que j'ai cité hier soir sur l'antenne aussi, Maud Pajot, qui propose toute une série de méditations accompagnées qui sont accessibles gratuitement sur Internet.
Maud Pajot.
Oui. Christophe André aussi le fait. Il y en a beaucoup, après, à chacun de trouver la personne qui lui convient, la voix qui lui convient. Mais ça va vous permettre d'apprendre à respirer, à prendre un peu de recul. Et surtout, à vous focaliser non pas sur ce qui vous a fait mal dans le passé, mais sur ce que vous voulez maintenant construire pour aller mieux.
D'accord.
Et il faut aussi accepter que quand on a une dépression, on ne va pas mieux comme ça du jour au lendemain, mais c'est chaque jour après l'autre, chaque pas. Et chaque petit pas en avant, c'est déjà quelque chose de bien.
D'accepter un petit peu les en dents de scie, le fait, c'est ce que vous
aussi.
Voulez dire. Voilà,
aussi, oui, tout à fait. Et toujours, toujours bien vous dire que la dépression, elle est venue vous dire quelque chose. Donc vous pouvez aussi la remercier, lui dire, ok, j'ai compris le message, tu peux t'en aller. On passe à autre chose maintenant.
D'accord. Donc en fait, essayer de l'apprivoiser pour aller vers quelque chose de mieux, quoi, pour aller vers un bien-être.
Exactement, et prendre des décisions concrètes concernant ces gens-là et ce travail, quoi. Parce que il est clair que c'est pas voilà, vous n'allez pas pouvoir y retourner, quoi.
Oui, c'est vrai que le fait, comme vous m'avez dit tout à l'heure, le fait de me sentir encore en lien et d'être en dépendance ou en lien toujours avec cette entreprise, c'est vrai que c'est pas bénéfique.
Ah ben je pense très sincèrement que ça vous empêche de sortir de là. Hein.
Donc pour vous, c'est quelque chose de prioritaire à mettre en place.
Ah, j'en suis persuadée. Le gros nœud est là, donc forcément, si vous enlevez le nœud, derrière, ça coule tout seul. Hein.
D'accord.
Est-ce que vous aimez lire ?
Ben, j'aimais lire, mais j'arrive plus ces derniers temps à lire. J'arrive plus depuis très longtemps à lire.
Bon, si ça revenait, moi je vous conseille un livre intéressant qui s'appelle « La visualisation positive pour les nuls ».
D'accord.
Vous savez, c'est les séries de livres jaunes et noirs.
Oui.
Et la visualisation positive pour les nuls a été écrite par Alain Lancelot et Robin Nixon. Ça, peu importe, de toute façon, vous trouverez avec le titre. Et ça vous fera du bien. C'est plein de petits exercices comme ça pour sortir de cette rumination mentale due à la dépression.
D'accord.
Hein ? Ça fait partie des petites choses à faire. Respirez, allez prendre l'air, allez vous oxygéner aussi. Laissez-vous prendre la lumière, si ce n'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière artificielle des lampes de luminothérapie. Tout ça joue sur le cerveau.
D'accord.
Nourrissez-vous correctement, si vous saviez à quel point la nourriture est importante en cas de dépression.
D'accord.
Votre corps a besoin que vous vous occupiez de lui maintenant.
Oui, c'est ça aussi. C'est que peut-être que je ne me suis pas autorisée à prendre soin de mon corps depuis que je suis dans cette période, quoi.
Et il y a d'autres questions qui me viennent à l'esprit, mais on prendra le temps juste après les infos, si vous voulez bien, de continuer à en parler, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui s'est beaucoup, beaucoup occupé des autres toute sa vie. Hein.
Oui, c'est tout à fait ça.
Est-ce que vous avez été une petite fille qui a été souvent humiliée ?
Oui.
On retrouve dans votre histoire de vie cette blessure d'humiliation là, qui ressort dans plein de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ?
J'ai vécu beaucoup de... Enfin, j'ai entendu beaucoup de maltraitance, mais verbale. Verbale, beaucoup d'humiliation de la part de mon père.
D'accord. Si vous le voulez bien, Lucie, on va laisser passer les infos et j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu plus. Si vous en avez envie, hein, je ne vais pas vous obliger.
Oui, je veux bien.
Mais je pense que... Ah pardon, je me précipitais, mais on me dit en régie qu'on a encore le temps d'aller jusqu'aux... Oui, enfin, ça laisse une petite minute, c'est relativement court. Mais c'est important de comprendre d'où on vient pour savoir où on est et où on veut aller. Et bien évidemment, quand on a été humiliée petite, vous dites verbalement seulement ?
Verbalement, et puis ben, disons que oui, j'ai été délaissée, quoi, quelque part. J'ai été mise à l'écart.
Et votre maman, elle a joué quel rôle dans tout ça ?
Elle était dans le déni, quoi. Elle ne pouvait pas voir les choses.
Mais comme c'est souvent le cas, ouais. On va marquer cette courte pause, le temps des infos, si vous le permettez, Lucie.
D'accord.
Et puis on en parle un tout petit peu après pour voir si ça peut dénouer quelques nœuds.
D'accord. Hein? Merci.
D'accord. Sabine. Merci à vous. Vous ne bougez pas, je vous récupère dans quelques minutes.
D'accord, merci.
À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est minuit. C'est dans Faire des infos avec Sophie Tissot. La joie de Canet en Roussillon et la claque pour Marseille. L'OM est éliminé de la Coupe de France par un club de 4e division. La disparition tragique d'Olivier Dassault cet après-midi. Le député LR est décédé dans le crash de son hélicoptère sur la côte normande. Près de 600 000 personnes vaccinées en France ce week-end. Beaucoup aimeraient que les centres de vaccination mis en place soient pérennisés. Et puis que vont révéler Meghan et Harry dans leur entretien diffusé cette nuit aux États-Unis ? Réponse dans quelques heures, mais en attendant, le teasing de l'interview fait grincer des dents la royauté britannique.
Europe 1.
Bonsoir à tous. Coup de tonnerre ce soir sur la Canebière. L'OM est éliminé de la Coupe de France. Les Phocéens ont été sortis dès les 16e de finale par Canet en Roussillon, un club de 4e division, Jean-François Pérez.
Les amateurs de Canet en Roussillon ont donc réussi à sortir l'Olympique de Marseille de la Coupe de France de Buzyn. Et le plus incroyable, c'est que cela relève d'une logique absolue, puisque Canet en Roussillon a de loin effectué le meilleur match face à des Marseillais qui étaient fantomatiques. Ce sont eux, les Catalans, qui ont ouvert le score. Un coup franc magnifique dans la lucarne de Posteraro, qui aura été l'un des meilleurs joueurs de son équipe. Héroïque vraiment donc les joueurs de Canet en Roussillon. Même si Milik, le Polonais de l'Olympique de Marseille, l'avant-centre, a réussi à égaliser peu avant la mi-temps. Une contre-attaque éclair, la seule quasiment du match pour l'OM, Payet pour Germain qui donne donc le but à Milik. En deuxième mi-temps, on pensait que les Marseillais allaient réussir à se sortir malgré tout du piège. Pas du tout. Johan Baye à 20 minutes de la fin sur une contre-attaque incroyable, magnifique, technique. Tout ce que les professionnels n'ont pas réussi à faire donne l'avantage à Canet en Roussillon, une équipe de 4e division qui élimine donc l'Olympique de Marseille au stade des 16e de finale. Le football catalan a vécu une soirée historique avec en plus quelques dizaines de supporters dans les tribunes.
Jean-François Pérez du service des sports d'Europe 1. Autre résultat de cette journée, qualification de Lille qui a battu Ajaccio 3-1. Qualification également d'Angers et de Châteaubriant. L'actualité de ce dimanche soir, c'est également la mort tragique d'Olivier Dassault qu'on a appris en fin de journée. Le fils aîné de l'industriel Serge Dassault est décédé cet après-midi dans le crash de son hélicoptère près de Deauville. Il avait 69 ans. Le pilote est également décédé. Olivier Dassault qui était également engagé en politique, Aurélie Herbemont.
Olivier Dassault était député de l'Oise depuis 2002. Il l'avait déjà été sous les couleurs du RPR entre 88 et 97, là où son grand-père Marcel avait lui aussi été élu. Un libéral assumé, un élu rieur qui n'avait pas que la politique dans la vie. Passionné de photographie, chasseur, il était aussi pilote d'avion sur les célèbres Falcons de la famille. Olivier Dassault qui avait reçu vendredi la visite du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur dans sa circonscription de Beauvais, aux côtés de la maire Caroline Cailleux.
Olivier Dassault était non seulement mon député, mais c'était aussi un ami personnel. Et sa disparition aujourd'hui, pour moi, est un choc. Je n'arrive pas à réaliser que je ne vais pas le revoir. Il devait revenir d'ailleurs demain sur Beauvais. C'était un homme exceptionnel, très proche des gens, à leur écoute.
Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient. Parmi eux, Emmanuel Macron. Olivier Dassault aimait la France, écrit le chef de l'État. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air. Sa vie durant, il ne cessa de servir son pays.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, a également réagi et salué un grand serviteur de la région. Le coup d'accélérateur donné ce week-end à la campagne de vaccination a porté ses fruits. 585 000 personnes ont été vaccinées depuis vendredi. Chiffre annoncé ce soir par Jean Castex, le Premier ministre qui avait promis de mettre le paquet. Des centres de vaccination ont été ouverts partout dans le pays, notamment dans les départements sous surveillance accrue. Parmi eux, le Pas-de-Calais qui a vécu son premier week-end de confinement sur les 4 prévus et où on aimerait bien que ces centres soient pérennisés. Maximilien Carlier.
C'est un gymnase transformé en vaccinodrome. Les paniers de basket sur les côtés, d'immenses toiles bleues servent de box de vaccination. Des Boulonnais très satisfaits par la mise en place de ce centre.
C'est pratique, je trouve. Il y a de l'air, on n'est pas les uns sur les autres, c'est bien foutu. Ça rappelle un peu quand on va voter, c'est un peu le même principe.
Je suis vraiment contente que ça se passe comme ça, ça va être très bien organisé. Sincèrement, il était temps.
La question, c'est de savoir maintenant si ces vaccinodromes vont être pérennisés. Réponse du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Ça ne fait sens de les maintenir ouverts que quand il reste des vaccins injectés.
Et forcément, oui, déception pour le maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier.
Si ça n'est pas maintenu, la population considérera que c'est un coup de projecteur, un coup de communication, un coup qui est bien en deçà de ce qu'elle est en droit d'attendre, c'est-à-dire ce rattrapage vaccinal.
Il faudrait encore plus de doses pour cet élu du Pas-de-Calais qui a l'impression qu'on est en train de confiner la population pour vacciner. Il aurait préféré l'inverse. Boulogne-sur-Mer, Maximilien Carlier, Europe 1.
Un rebondissement dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier. La collégienne, à l'origine de la polémique, avoue avoir menti. Elle avait accusé le professeur d'avoir fait sortir les élèves musulmans du cours pour projeter les caricatures de Charlie Hebdo. Elle a reconnu que ce jour-là, elle n'était pas en cours. En plein débat sur l'islamo-gauchisme, cette affaire qui secoue Sciences Po Grenoble, deux professeurs ont été accusés d'islamophobie. Leurs noms ont même été affichés dans l'enceinte de l'IEP. Une enquête pour injure publique a été ouverte. Fin de la visite historique du pape en Irak avec cette image forte ce matin, le souverain pontife en train de prier au milieu des ruines à Mossoul, ville martyre détruite par le groupe État islamique. Le pape qui a ensuite célébré sa plus grande messe dans le pays devant des milliers de fidèles à Erbil dans le Kurdistan. Une célébration au cours de laquelle il a appelé les fidèles à faire preuve de miséricorde et à pardonner à leurs bourreaux djihadistes.
Il nous faut la force de résister à la tentation de la vengeance. La vengeance nous plonge dans une spirale de représailles sans fin. Avec la puissance de l'Esprit Saint, Dieu nous envoie non pas pour faire du prosélytisme, mais comme des missionnaires. Des hommes et des femmes appelés à témoigner que l'Évangile a le pouvoir de changer des vies. Comme ça, nous devenons des instruments de la paix de Dieu et de sa miséricorde.
Le déplacement du pape suivi par notre envoyé spécial Jean-Sébastien Soldaini, le souverain pontife qui a conclu son voyage en assurant que l'Irak resterait toujours dans son cœur. Un drone venant de la mer a frappé ce soir un port pétrolier dans l'est de l'Arabie Saoudite. Un missile balistique a également visé des installations du géant de l'énergie Aramco. Pas de victimes ni de dégâts pour l'heure et l'origine de ces tirs reste inconnue. C'est l'événement médiatique de ce dimanche, l'entretien du prince Harry et de Meghan Markle sur la vie qu'ils avaient au sein de la famille royale d'Angleterre. Une interview réalisée par Oprah Winfrey. Elle sera diffusée tout à l'heure, dans 2 heures, aux États-Unis. Joanna Chabas.
Oui, 90 minutes d'interview exclusive, pleine de révélations, selon la chaîne américaine. Les bandes-annonces sont dignes d'un film d'action.
You've said some pretty shocking things here. Wait, hold up, wait a minute.
Des réponses choquantes, assure la présentatrice qui assure avoir pu poser toutes ces questions, notamment celle-ci.
Were you silent or were you silenced?
Avez-vous été silencieuse ou réduite au silence? Cette remarque d'Oprah Winfrey énerve déjà les médias britanniques. La reine n'est pas Don Corleone, a titré le tabloïd le Daily Mail. Depuis l'annonce de cette interview, Meghan est accusée de harcèlement par d'anciens employés. Pour l'avocat du couple, ce sont des calomnies inventées par la famille royale. Bref, c'est l'heure des règlements de compte pour Harry et Meghan.
Je ne sais pas comment la famille royale pouvait penser qu'on allait rester silencieux s'ils participent activement à la diffusion de fausses rumeurs sur nous.
Le couple justifie aussi de sa rupture avec la famille royale. Harry avait peur que l'histoire se répète. Il pense à sa mère, la princesse Diana, qui avait donné une interview similaire il y a près de 25 ans.
Je suis juste soulagé et heureux de pouvoir être ici avec ma femme. Parce que je ne peux pas imaginer comme ça a pu être dur pour elle. De faire ça toute seule. Parce que ça a été horriblement dur pour nous. Mais au moins on est là l'un pour l'autre.
La reine n'a pas eu le droit de visionner l'interview avant sa diffusion. Selon les médias britanniques, elle ne devrait même pas la regarder cette nuit.
Joanna Chabas, et l'interview sera diffusée à partir de 2h du matin, heure française, sur la BBC. On passe à la météo, moins de soleil demain, Valérie Darmon, et les nuages arrivent par l'ouest.
Tout à fait, sur les régions voisines de la Manche, de la Bretagne aux Hauts-de-France, le temps est sec, mais le ciel s'ennuage au fil de la journée. Des Charentes, au Pays de la Loire, au Grand Est, en passant par le bassin parisien, vous passez la journée au soleil aussi, mais les nuages vont apparaître en fin de journée. Du nord de l'Aquitaine à la Bourgogne-Franche-Comté, le ciel est voilé et surtout plus clair que ce dimanche dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Du bassin aquitain justement à Auvergne-Rhône-Alpes, mais cette fois-ci côté nord, en descendant vers le littoral méditerranéen par la vallée du Rhône, c'est toujours plus gris qu'ailleurs et il neige au-dessus de 1200 mètres en montagne. Je vous donne quelques maximales, 8 à Charleville, à Caen et à Évreux en ce lundi après-midi, 9 à Troyes et à Chartres, 10 à Châteauroux et à Tours, 11 degrés à La Rochelle et Biarritz, 12 degrés dans le Lyonnais, 13 degrés en midi toulousain, 16 à Marseille et pour la région parisienne, 9.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1, il est minuit, passé de 10 minutes et c'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Europe 1, 23h, 1h, la Libre Antenne, Sabine Marin.
Donc pour cette deuxième et dernière partie de votre Libre Antenne en ce dimanche soir sur Europe 1. Merci d'être là avec nous, merci de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler si vous souhaitez prendre la parole. Vous faites simplement le 3921 et vous tomberez sur Estelle ou sur Théo qui vous guideront jusqu'à moi. Et puis pour intervenir par SMS, réagir, donner votre point de vue, demander à être mis en contact avec quelqu'un, c'est facile par SMS 73921, suivi du mot nuit et de votre message.
23h, 1h. La Libre Antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Alors comme c'était la fête des grands-mères aujourd'hui, je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez proche de la vôtre et si c'est le cas, comment elle est ou comment elle était. Ben, j'ai eu assez peu de réponses finalement. J'ai partagé la réponse de Jacinthe avec vous qui me dit, ma grand-mère en fin de vie a été un modèle d'amour inconditionnel pour son prochain et ses proches et une force intérieure d'une résilience incroyable. Sa lumière m'accompagnera toujours. C'est un beau message que vous lui rendez, un bel hommage que vous lui rendez là, Jacinthe, et j'en profite pour vous embrasser au passage. Et je vous récupère, Lucie, vous êtes là ?
Oui, Sabine, je suis là.
Alors, on était en train de parler de cette dépression-là qui vous... J'allais dire qui vous enquiquine, mais pas forcément, qui vient vous dire que quelque chose doit changer dans votre vie, en tout cas.
Ouais.
Depuis 2 ans, et on avait commencé à mentionner votre enfance. Et vous m'avez parlé d'un père qui était... Comment vous pourriez le décrire, ce père-là ?
Comme je vous disais, bon, il m'humiliait, quoi. Il n'y avait aucune reconnaissance, quoi. J'étais un peu sa tête de turc, quoi, quelque part, quoi.
Combien d'enfants étiez-vous ?
Nous étions 4.
Et c'était un traitement vraiment spécial pour vous ?
Ouais, tout à fait. J'ai un petit peu travaillé avec un psychiatre dans le passé où j'avais fait un lien avec mon arrivée, ma naissance, quoi. Enfin, voilà, les circonstances de ma naissance où voilà, j'avais un petit peu mis en exergue que bon, ça pouvait peut-être sûrement être lié à ça, quoi. Voilà,
qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivée ? Vous êtes la numéro combien sur les 4 ?
Je suis la 3e.
Oui, et qu'est-ce qui s'est passé à votre arrivée ?
Le fait que j'arrivais dans un mauvais moment où ils habitaient dans un autre pays, quoi, un autre pays européen, donc ils sont venus un petit peu par choix, pas vraiment par choix, quoi, un peu par obligation, quoi, par rapport aux difficultés liées au travail dans ce pays. Et en fait, moi, j'ai été conçue dans ce pays et je suis née en France.
Est-ce que vous avez été une petite fille désirée ?
Non, je pense pas du tout. Non.
Ah oui.
Non, non, c'est pas ça du tout. Non, au contraire, c'était. J'ai appris que ma maman était n'était pas bien du tout, anémié, tout ça, pas bien. Elle avait vécu très mal, justement, ce déménagement, ce départ un peu précipité, ce départ. Et donc, voilà, donc ça a été. Et j'ai appris même plus tard aussi que du coup, elle avait même sollicité de l'aide après. Et que donc, du coup, il y a eu des religieuses qui venaient me s'occuper de moi. Parce qu'elle n'était pas en capacité de s'occuper de moi.
Donc, elle a probablement très mal vécu cette grossesse.
Oui.
Et exactement. Vous aussi, de donc, l'intérieur, forcément. Inconsciemment, forcément. Voilà. Mais oui.
Voilà, exactement.
Vous étiez déjà rejetée, quoi.
Voilà. Et donc, c'est vrai que voilà, le fait que mon père, sûrement, le fait de voir, je suppose, de voir sa femme. Mal, etc. Donc, il y a sûrement eu aussi, je ne sais pas, m'avoir pris en grippe ou m'avoir. Je n'étais pas l'enfant désiré, ce n'était pas le moment. Mon arrivée ne s'est pas présentée dans une période facile quoi, pour eux. Quoi.
Comme si c'était de votre faute.
Voilà, exactement. Ouais. Parfait.
Et donc forcément, quand on arrive dans un contexte comme ça, déjà, on n'a pas de place. Et en plus, on n'arrive pas à la trouver dans les années qui suivent, j'imagine, non plus.
Non plus, non plus. Alors, la seule place que j'ai réussi à trouver, c'est par une grand-mère, une grand-mère maternelle, avec qui j'ai eu un petit peu une relation de maman, voilà, où je l'ai un peu... J'ai un peu fait un transfert de maman, quoi.
Il y avait un lien d'amour avec elle.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est elle qui m'a aidée, à vivre un peu toute cette période, quoi. Cette période de l'enfance.
Comment vous avez quitté cette famille-là? Comment vous avez réussi à construire une vie de femme?
Ça a été compliqué. Très compliqué et il a fallu que je mette avec beaucoup de ruptures et avec des périodes très longues, où je revenais en me disant peut-être que ça va changer.
Ça va changer, oui, c'est ça. Ça, c'est terrible. Quand on a cet espoir-là, c'est exactement, on se reprend un mur à chaque fois, quoi.
Voilà, et ça change donc à nouveau une cassure. À nouveau une cassure et puis le fait que voilà, il n'y a jamais eu, j'espérais un petit peu d'amour, un petit peu de reconnaissance de leur part et puis non, ça n'est pas arrivé quoi.
Et du coup, vous faites partie de ces gens qui pensent que pour avoir de la valeur, pour essayer qu'on nous aime, il faut faire toujours. Donc être probablement est-ce que vous avez été bénévole par exemple dans des associations?
Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je l'ai fait.
Ce besoin de donner aux autres ce qu'on n'a pas eu aussi.
Ouais.
Et puis d'essayer inconsciemment de se dire, mais j'ai de la valeur, regarde comme j'ai de la valeur.
Voilà.
Regarde comme je peux Parfait. Trouver ma place en aidant, finalement.
Exactement.
Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que vous avez été probablement avec ce boulot dont vous me parliez tout à l'heure, en train de rejouer quelque chose, là.
D'accord.
De
Donc de rejouer aussi tout ça.
Et oui.
De rejouer cette histoire.
Les gens qui vous posent souci, là, sont des hommes?
Un homme et une femme.
Un homme et une femme.
Mais essentiellement un homme.
Et oui. Et regardez un petit peu si on met l'histoire en miroir.
Et oui. Hein, oui, tout à fait.
C'est là où il va falloir travailler sur l'affect à décoller de ça. Parce que l'affect il n'est pas lié à ça, il est lié à votre histoire de vie.
Et j'ai toujours pensé que de toute façon mon rapport ma vie affective avait été difficile parce que ce rapport aux hommes était compliqué quoi, où j'avais du mal à leur accorder de la confiance.
Oui, ça aussi bien sûr, évidemment. Mais quand le premier homme de sa vie, c'est en l'occurrence un papa, nous rejette, n'est pas capable de nous montrer le chemin et n'est pas capable de nous aimer, c'est pas évident d'avoir confiance dans les hommes en général. Et à l'inverse, ça veut dire aussi qu'on est tout le temps dans une dépendance.
C'est ça, quelque part, j'attendais aussi... J'attendais comme un... entre guillemets, peut-être, voilà... quelqu'un qui allait me sauver, quoi, qui allait m'aider à guérir mes blessures liées à l'image paternelle.
Et d'une certaine manière, dans votre milieu professionnel également. Et c'est pour ça que quand vous vous sentez rejeté, vous ne mettez pas ça sur un plan professionnel, mais sur un plan émotionnel.
D'accord,
on ne rejette pas ce que je fais, on rejette qui je suis.
Oui, ouais. Il y a aussi donc, mon côté, mon identité, quoi, quelque part.
Alors que ça n'est pas vrai. C'est comme ça que vous le ressentez, parce qu'il y a cette petite fille en vous blessée qui rejoue cette scène-là. On ne veut pas de moi, on n'aime pas. Mais là, en l'occurrence, il s'agit du travail. Donc, il faut vraiment déscotcher toute la partie émotionnelle qui s'est scotchée à ça, qui n'a rien à voir avec ça. Hein.
Donc, quand vous dites déscotcher, c'est-à-dire qu'il y a eu une association
Je pense, cela dit, je ne vous connais pas, et là, on n'a pas beaucoup de temps pour se parler, mais réfléchissez à ça, et si ce que je vous dis vous parle, alors oui, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, oui, bien sûr.
D'accord.
Mais il me semble, en vous écoutant, que ça ressemble à ça, en tout cas.
Mm-hmm.
Et j'ai l'impression que ça résonne en vous quand je vous en parle.
Oui, tout à fait.
Donc vous laissez maturer un peu tout ce qu'on se dit, et puis vous commencez à réfléchir à tout ça et à vous dire vraiment que, ben oui, chaque chose a sa place. Aujourd'hui, c'est le travail dont il s'agit.
Oui.
Et pas d'un mix de toute ma vie. C'est une étape de ma vie professionnelle. C'est pas mon enfance qui est en train de se rejouer là.
D'accord, ouais. Donc il faut que je prenne cette distance, ce recul, un peu.
Ah bah ça serait salvateur. Hein.
Ouais, pour pouvoir sortir et remonter la pente de cette dépression.
Parce que vous verrez qu'on en sort, hein, ça tout le monde le dit. Hein. Une dépression, elle a toujours un début et une fin. En tout cas, quand on arrive à changer ce qu'il faut changer.
Mmh. Oui, parce que j'ai vraiment l'impression que là, je suis dans une impasse. Dans une impasse, comme si j'étais sans issue, où je n'arrive plus à me projeter à tous les niveaux. Quoi. Mmh.
Mais ça, c'est le propre de l'état de dépression, vous le savez. Vous n'êtes pas dans une impasse, il y a une sortie, c'est juste que vous ne l'avez pas encore trouvée.
D'accord.
Et que là, ça commence, j'espère, ça commence à se dessiner un petit peu.
Oui, donc il faut que je travaille tout ça, quoi, et que je me fasse, je continue à me faire aider.
Si vous avez quelqu'un, je pense que ça serait bien pour structurer un petit peu tout ça, oui.
Et qu'est-ce que vous me conseillez comme type de... Parce que bon, c'est vrai qu'on parle de... Ben, vous qui êtes hypnothérapeute, qu'on entend parler aussi de l'EMDR, de...
Ah ben, dans votre cas, les deux me paraissent très complémentaires. L'EMDR pour apaiser le niveau émotionnel de ce qui s'est passé dans l'enfance.
Oui.
Ça serait vraiment un travail intéressant pour vous. Vraiment, on passe par ce travail-là oculaire pour vraiment diminuer la charge émotionnelle, si vous voulez. Et
d'accord.
Plus la charge émotionnelle est petite, plus c'est facile de travailler dessus après. Et puis, si vous en avez envie, évidemment, faire quelques séances d'hypnose pour aller à la fois vous occuper de la petite fille que vous étiez, et puis aussi de toutes ces étapes où vous me disiez tout à l'heure « Ah oui, mais qu'est-ce que j'ai pris comme mauvaise décision ?» Et où je vous ai répondu « Mais oui, mais à l'époque, vous ne saviez pas ce que vous savez aujourd'hui. »
Oui.
Et ça aussi, en hypnose, vous voyez, on fait des séances où on peut aller parler à la personne qu'on était avant. Pour lui dire ça.
D'accord.
Pour lui dire « Mais oui, peut-être, par exemple, si à 20 ans, ou je ne sais pas, à 25 ans, vous avez pris une décision qu'aujourd'hui vous trouvez stupide, eh bien de retourner voir celle que vous étiez à l'époque pour lui dire « Ok, mais je sais que tu as fait de ton mieux. » Et que tu ne savais pas ce que moi je sais aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait ce que vous. C'est tout à fait le cas parce que, par exemple, vous voyez, je repense à une situation, enfin, à une relation amoureuse auquel j'avais mis fin et où j'avais l'impression qu'on allait m'enfermer, qu'on allait m'étouffer quelque part.
Mm-hmm.
Et alors que j'étais encore étudiante et que moi j'avais besoin de. J'avais besoin de liberté, j'avais besoin de quitter ce milieu familial, j'avais besoin et de m'impliquer comme ça dans une relation où qui allait me mettre dans une case ou dans un quelque part dans un placard, quoi.
Vous voyez, vous avez tous les éléments aujourd'hui, mais vous ne les aviez pas à l'époque, forcément.
Je ne les avais pas, exactement. Exactement.
Et l'EMDR et l'hypnose vont vous permettre de clôturer les dossiers du passé assez rapidement et de vous tourner enfin vers la sortie qui est là, qui n'est pas loin, mais que vous ne voyez pas encore.
D'accord. D'accord.
Je sens déjà que ce soir, il y a des choses qui bougent. J'espère en tout cas.
Oui, tout à fait. Vraiment, votre éclairage me parle beaucoup et je me rends compte que ça m'ouvre d'autres... ça m'ouvre un peu... ça m'oxygène un peu au niveau des pensées, quoi.
Bon, bah, j'en suis ravie. Et puis sinon, à propos de pensées, je le recommande très souvent, ce petit livre qui se lit en une heure et qui s'appelle « On est foutu, on pense trop » de Serge Marquis. Ça, vraiment, je vous le recommande. Ça, c'est rien du tout. C'est un tout petit bouquin de poche qui fait... un demi-centimètre d'épaisseur, qui se lit vraiment en une heure, et qui parle
alors,
On est foutu, on pense trop, de Serge Marquis.
Oui.
Serge Marquis, comme un marquis, et ça, Serge Marquis vous parle du hamster dans sa roue qui s'appelle Pensouillard, et le Pensouillard, d'accord, quand il pense trop, il fait des pensouillures. C'est très mignon, c'est plein d'humour, et ça permet de prendre du recul sur plein de choses, vous verrez.
D'accord, bah écoutez, je vais écouter vos conseils, et je vais lire ces ouvrages. Ouais.
Bon, Lucie, je vous souhaite le meilleur. Et puis surtout, rappelez-moi dans quelques temps pour me raconter où vous en êtes sur ce chemin-là.
D'accord. Merci beaucoup, Sabine, pour votre appui et votre éclairage.
C'est gentil à vous. Je vous envoie plein de belles énergies pour vous accompagner.
Merci encore.
Au revoir, Lucie.
Au revoir.
h 23 1h, la libre antenne d'Europe 1, Sabine Marin.
Non, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire, on n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'égo et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est tendre.
Nous, c'était Julien Doré. Et je vous demandais tout à l'heure de me parler de vos relations avec votre grand-mère. Eh bien, c'est une grand-mère qui m'a répondu et qui m'a envoyé un très gentil message. Il s'agit de Martine qui souhaite partager le petit mot que lui a écrit sa petite fille. Cette petite fille lui a écrit « Il y a plein de mamies, mais c'est toi que je choisis. Je t'aime, tu es la plus belle. » Quel joli message pour la fête des grands-mères, Martine. Je me permets de vous embrasser. Et c'est Hervé que j'accueille maintenant sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Hervé.
Oui, bonsoir, Sandrine.
Sabine, je préfère, si ça ne vous dérange pas.
D'accord, merci. En parlant de poésie, moi aussi, je voulais vous en proposer une que j'ai moi-même composée. Bon, elle est assez courte. C'est... attendez que je m'en rappelle. Elle était si petite, Annick. Il était si grand, Templin. Qu'avec un petit jeu de mots, le chien est plus grand que le paquebot. Je ne sais pas si vous avez saisi un petit jeu de mots.
Alors, le début, oui, la femme a échappé.
Elle était si petite, Annick. Il était si grand, Templin. Avec un petit jeu de mots, la petite fille est plus grand que le paquebot.
Oui, ça y est. Et c'est vous qui écrivez
voilà,
ça.
Voilà, vous l'avez.
C'est vous qui écrivez ça.
Oui, bah, j'aime bien écrire des petites poésies de temps en temps. C'est.
Ok.
J'ai pas grand chose d'autre à faire là.
Oui, alors justement, je crois que c'est le but de votre appel. Racontez-moi un peu ce qui vous arrive.
Oui. Parler de quoi? Parler du fait que je ne travaille plus depuis. Depuis octobre. Je tenais un commerce, un restaurant pour être plus précis. Mmh. On m'a suggéré, alors moi déjà je suis tout ce qui est Uber Eats, etc., tous ces systèmes de déplacement, de nourriture, tout ça, je suis absolument contre. C'est contre mon éthique et j'ai décidé complètement de boycotter tout ça et de boycotter mon propre commerce. Et là je suis en période de transition. Je ne sais pas quoi faire.
Qu'est-ce qui vous gêne dans la livraison d'un domicile de nourriture?
La façon dont sont traités les employés.
Ah, d'accord.
Ça me gêne beaucoup. Moi, je ne veux pas participer à ça. Je sais que moi, ça ne me dérangerait pas, ça ne m'aurait pas dérangé, étant donné que la nourriture que je servais à mes clients était de bonne qualité. Mais, profiter de ces jeunes comme ça qui sont sous-payés, ce serait indécent et ça répondrait pas à l'éthique qui est la mienne, parce que ils peuvent très bien livrer de la nourriture de bonne qualité, mais comme tout aussi bien aller chez Burger ou McDonald's ou chez Quick et livrer cette merde et chez des pauvres gens qui 10 ans après seraient atteints d'un cancer. À moins qu'ils aient posté vraiment leur testament. Mais bon, pour moi, ça, c'est pas quelque chose de viable sur le long terme.
Et donc,
de toute façon...
Oui.
J'ai fait une croix sur la restauration. Après, c'est peut-être parce que j'ai un côté assez... girouette. D'ailleurs, j'ai quitté ma conjointe avant-hier. Je vous appelle parce que je suis dans une phase où j'ai beaucoup de questionnements. Je le vis pas très mal, hein. Je le vis vraiment pas mal. Pour moi, c'est une bonne opportunité là qui s'offre à moi puis de recommencer à zéro. Voilà.
C'est-à-dire, si je comprends bien, vous avez perdu votre restaurant à cause du Covid ?
Oui, c'est ça. Et j'aurais quand même pu continuer et faire des efforts. Mais c'était trop. Toutes ces restrictions étaient trop. Et donc, j'ai décidé moi-même, si vous voulez, limite de s'aborder mon commerce.
Ça faisait combien de temps que vous l'aviez ouvert ?
Oh, ça faisait 4 ans.
Oui.
Ça faisait 4 ans. C'était des kebabs végétariens. Donc, c'était quelque chose qui, à l'époque, n'était pas très en vigueur. Auparavant, j'avais également un bar de céréales. Ça c'était à Paris et puis ensuite c'était à Poitiers. J'ai préféré partir dans une ville pas tout à fait à la campagne mais rejoindre quand même la province parce que que, bon, moi, ce que j'aime, c'est l'idée de vivre dans une ville entourée quand même de verdure. Quand on est à Paris, effectivement, il y a peu de verdure. Hein, bon.
D'accord. Et donc ?
Donc, je me suis ensuite installé à Poitiers, où j'ai donc pu monter mon commerce. Mmh. Donc, avec mon ex-conjointe. Et je n'ai même plus de nostalgie de tout ça. Simplement, je voulais vous faire part plutôt de bonnes vibrations, du fait que votre émission, déjà, c'est peut-être la plus intéressante sur toute la grille horaire d'Europe 1, puisque vous donnez la parole à des gens qui n'ont pas forcément l'occasion de parler ailleurs. Je pense que vous êtes également infirmière en dehors de la radio, je pense. Vous avez des diplômes, etc. Vous êtes psychologue, je veux dire.
Non,
psychologue.
Je suis hypnothérapeute.
D'accord.
Je ne suis pas psychologue. Bon. Mon outil à moi, c'est pour accompagner les gens vers un mieux-être, c'est l'hypnose thérapeutique.
D'accord. Donc pour sortir les gens un petit peu de leur boucle et pour essayer de les apporter vers un... de les emmener vers un meilleur...
Un mieux-être, oui, tout à fait.
Un mieux-être. Mm-hmm. Parce que je suis, à la limite, si vous voulez, je suis partagé entre un dégoût de cette société, mais également une euphorie quant à aux possibilités qui s'offrent à nous de nous autres qui sommes assez récalcitrants vis-à-vis des peut-être abus. Bon, après, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas scientifique ou quoi que ce soit, mais enfin bon, je sais que moi, je me sens un petit peu euphorique à l'idée de ce qui peut être à venir, c'est-à-dire si on ne peut plus rentrer dans les commerces, si on ne peut plus manger au restaurant, eh bien, écoutez, cultivons nous-mêmes nos potagers. Et puis, l'essentiel, après, c'est également d'avoir des gens à l'écoute, des gens comme vous, des infirmiers, des psychologues. Je suis également une psychologue. Mmh. Donc, voilà. Et puis, faut dire que ça m'aide beaucoup. C'est surtout le dialogue avec les gens qui m'aide.
Qu'est-ce qui s'est passé, Hervé, avec votre compagne, là ?
Elle était pas du tout dans le même dreaming que moi, si vous voulez ce que je veux dire. Dream, vous savez, le rêve. Moi, je suis quelqu'un d'assez nomade. Je pense qu'un homme, par définition, est quelqu'un qui veut voyager, qui veut partir, qui veut s'échapper. Et il a une femme qui l'attend à son foyer et qui est là comme un port, comme un port auquel on souhaite rentrer lorsqu'on est en mal-être ou lorsqu'on a trop voyagé, et lorsqu'on est épuisé. Eh bien, moi, lorsque je rentrais chez moi, pourtant, ayant été toujours fidèle à ma femme, c'était toujours la même chose. Voilà, donc c'est la petite Annie qui fait ses gnocchi à la poêle, le stuc cru, des choses comme ça, et étant moi-même cuisinier, et voulant vraiment faire un trait, alors après je sais pas à quoi c'est dû, rébellion totale envers mon ancien métier, mais j'ai décidé complètement d'arrêter de cuisiner. Du coup, c'est elle qui s'occupait de la cuisine. Il faut savoir que j'ai 10 ans de plus qu'elle. C'est quelqu'un qui est donneuse de leçons, et dans mon caractère, c'est bien qu'étant très pacifique, je lui ai dit au bout d'un moment, ça pouvait plus durer. Elle commençait à vouloir... adopter un chien alors qu'on vit dans un 30 mètres carrés. Pour elle, elle voulait le French Dream, elle voulait sa petite voiture. On a déjà une voiture, elle voulait commander un Hummer alors qu'on n'a pas forcément les moyens. Rouge, bien voyant. À Poitiers, je sais pas si vous êtes déjà là à Poitiers. Allô ?
Allô ? Ah, allô, allô ? Ah, désolé, on a un problème de communication. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que Michael est en ligne derrière ? Allô ? Ah, alors qui est au bout du fil ? Je ne sais plus, on a un petit problème technique.
C'est toujours...
ça recoupe. Allô ? Bon, on va passer un peu de musique, Fabrice, peut-être, pour voir ce qui se passe. Le temps de régler ce problème, on revient, à tout de suite.
Laissez votre message à Sabine Marin... au 739-21. 75 centimes, plus coût du SMS.
Un télépile est ton prénom. Tu sais très bien que je vais céder la première. Tu sais très bien comment me faire vriller la première. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Tu connais mes envies, j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je vais céder la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Je le sens dans mon cœur, dans mes veines. Ton parfum, ton cri, dans mes draps. Ton prénom est un délépile dans mes pensées. Tu sais très bien comment me faire rêver, tu sais faire. Tu sais très bien comment te défiler, tu sais faire. Tu connais la chanson, ne me mens pas. Je connais toutes tes vices et j'en passe et j'en passe. Tu sais très bien que je veux replonger la première. Je ressens dans mon corps, dans ma tête. Je le sens dans mon cœur, dans mes veines. Ton parfum est ancré dans mes draps. Ton prénom est un délépile dans mes pensées. Ton prénom.
Indélébile, c'était Iseut. Bon, on n'a pas réussi à récupérer la communication avec Hervé, mais pour être tout à fait honnête, je ne suis pas complètement sûre que c'était un appel vraiment sérieux. Donc nous allons passer à Michael. Bonsoir Michael.
Bonsoir Sabine.
Oh, on se connaît, non ? J'ai l'impression de connaître votre voix.
Alors, peut-être, je ne sais pas, si je vous ai au téléphone ou... Il me semble avoir parlé avec Olivier il y a quelques temps de ça.
Ah, peut-être que je vous ai entendu, alors je ne sais pas.
Félicitations pour vos émissions.
C'est gentil, merci à vous. Qu'est-ce qui vous amène alors ce soir ?
Alors, je voulais vous parler un petit peu... j'ai l'impression d'avoir de manquer un petit peu de confiance, de chance par rapport à... la situation actuelle qui se passe du fait du Covid et le fait que beaucoup de lieux publics soient fermés pour discuter, pour faire des rencontres, pour reprendre un petit peu goût à la vie d'avant, quoi. Voilà.
Ça, je crois que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. C'est très très compliqué de faire des rencontres en ce moment. On a plus que les squares et les bancs publics pour se poser et se parler.
Oui, c'est vrai, Sabine. Et de ce fait, voilà, j'essaye de multiplier quand même le fait d'essayer de sortir avec des amis, mais ça reste quand même difficile. Et je voulais avoir un petit peu votre conseil pour essayer d'avoir un petit peu de chance ou je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais chaque fois que j'essaye d'aller vers quelqu'un ou discuter, j'ai l'impression que les gens me fuient.
Ah.
Voilà. C'est
il va falloir que vous m'en racontiez un peu plus.
Ben j'ai depuis en fait ça fait 2 ans en fait je suis tout seul en fait depuis ma dernière on va dire liaison avec mon ex-amie.
Est-ce que je peux vous demander quel âge vous avez?
Alors j'arrive à 50 ans.
Vous avez une voix de gamin, c'est incroyable. Je pensais que vous en aviez entre 25 et 30.
Non, j'ai un peu plus Sabine. Et alors beaucoup de gens me disent en fait en me regardant que je ne fais pas mon âge, je fais beaucoup plus jeune. Mm-hmm. Bon, les années sont quand même là et comme je disais voilà, l'antenne ça fait 2 ans en fait que je suis plus avec mon ex-amie quoi. Ma petite copine, et depuis ces 2 ans, j'ai l'impression de je sais pas, je dis peut-être, alors soit un manque d'assurance, soit un manque de confiance aussi. Puis bon, entre-temps, comme voilà, la crise du Covid est arrivée, et alors il y a peut-être la crainte aussi de chacun d'entre nous, on s'approche pas trop...
C'est vrai que la période n'est pas très propice au rapprochement, mais dites-moi, avant elle, votre vie amoureuse, elle ressemblait à quoi?
Avant elle, ma vie amoureuse, en fait, c'était... je n'ai pas de honte à le dire, j'étais seul. Hein. J'étais tout seul. J'étais tout seul et... donc, c'est par l'intermédiaire d'un site... pas de rencontre, en fait, un site de sortie où j'ai pu faire quelques sorties et puis par la suite rencontrer cette personne et vivre avec elle pendant à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Quoi.
Donc votre première histoire, ça a été vers 45, 46 ans?
Ah non, ma première histoire, ça a été beaucoup plus tôt, ma toute première histoire, c'était aux alentours de 24, 25 ans, quoi, voilà.
Donc d'accord, il y a eu quelqu'un à 24, 25 ans, mais vous n'avez jamais vécu avec une femme avant cette dernière amie?
J'ai jamais vraiment vécu avec quelqu'un avant cette personne, quoi. Voilà.
Avant elle, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez rompu? Qu'est-ce qui s'est passé?
En fait, c'est pas moi qui ai rompu, c'est que de son côté, il y a eu une tromperie de sa part. Mmh. Et bon, je m'en suis rendu compte quand même assez rapidement. Alors, vu du fait que par mon travail, parfois je rentrais suivant mes horaires, vu que je travaille dans le domaine de la santé, vu que parfois voilà, je rentrais un petit peu tard, donc il est arrivé où je pense qu'elle a eu peut-être dans sa tête un ras-le-bol et s'est rapprochée d'une autre personne, quoi.
Et oui, moi ce que j'entends là, c'est que quand on n'a déjà pas très confiance en soi et qu'en plus on est trompé, il y a de quoi avoir la confiance qui s'abîme encore plus.
Mais de ce fait, en fait, pour dire la vérité, voilà, je ne lui ai jamais fait de mal, ni moralement, ni physiquement. Après, peut-être qu'il y a eu ce sentiment qu'elle ait eu du fait que j'étais un petit peu absent et puis du fait que par mon travail, voilà, je devais rentrer à une certaine... Et elle en a profité pour, au départ, par téléphone, pour avoir un contact avec cette nouvelle personne. Et après, physiquement, quoi. Donc, c'est vrai que ça blesse. Je souhaite à personne. Hein. Bon, je sais que tous les jours, il se passe en France, bien sûr, des gens qui se séparent, qui se trompent.
Il n'empêche que quand on vit soi-même, ça fait mal.
Mais ça fait, voilà, je veux dire, quand on est passé par là, on vit la chose différemment et des fois, on explique aux autres et on dit, quand ça t'arrivera, tu verras vraiment le mal que ça peut te faire et tu comprendras. Mmh. Et de ce fait, je peux pas dire voilà que j'ai remonté vraiment la pente et que j'ai connu quelqu'un d'autre. Parce que souvent, en fait... certaines personnes, en fait, se quittent et puis 2-3 mois après, ont eu la chance de rebondir et de refaire leur vie rapidement. Alors, peut-être, moralement aussi, on peut oublier du fait qu'on se reconstruit très rapidement et on a cette chance de reconnaître une autre petite amie.
C'est pas la majorité du temps, vous savez. Il faut pas imaginer que tous les autres, ça se passe tellement mieux que pour nous. C'est pas vrai. La majorité du temps, quand on a été trompé et quitté, il faut du temps pour s'en remettre.
Celui qui part.
Oui, bon, je pense que j'ai fait mon deuil. Hein, j'ai fait mon deuil. Oui. Je pense que depuis un an et demi.
Oui, ça y est, maintenant.
Bon, là, l'histoire fait que je vous en reparle. Voilà. Mm. Pour expliquer un petit peu à vous et aux auditeurs.
Mais ça me paraît complètement normal de ne pas immédiatement retomber amoureux et immédiatement repartir pour bille en tête pour une histoire. C'est logique.
Hein. Oui, non, c'est ce qui est logique. Ce qui est logique, mais je veux dire. J'ai cette impression de que les gens, en fait, que l'on me fuit. Et pourtant, bon, on dit toujours, tu t'habilles bien, tu fais attention à ta personne, à ton look. Enfin, t'es un garçon gentil.
Un beau garçon?
Alors, je ne veux pas me jeter des fleurs. J'aime bien m'habiller, être bien rasé, être propre, être... Mm-hmm. Voilà, donc, lorsque je vais faire des courses...
Ouais, vous êtes avenant, quoi.
Ben, j'essaye, lorsque je vais faire des courses ou sortir pour aller, que ce soit dans une pharmacie, un magasin, d'être quand même correctement habillé. Voilà, j'aime bien soigner mon look un petit peu tous les jours, quoi, ouais. C'est
alors,
important, je pense.
On va affiner un petit peu quand vous dites « j'ai l'impression qu'on me rejette ». Qui est « on » par exemple ?
Ben, la gente féminine, en fait...
C'est vaste. Est-ce que vous pensez à quelqu'un de précis, là ?
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par quelqu'un de précis, en fait ?
Quand vous me dites « on me rejette », ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Vous avez
non, quand quelque je dis « on me rejette »,
c'est... Femme, non,
non, non, pas spécialement. Quand je dis « on me rejette », comme je dis, en fait, vu que beaucoup de... Ben, par le Covid, beaucoup de bars, restaurants, bon, les pubs et tout ça, tout est fermé, donc... Autrefois, c'était quand même plus facile d'avoir un contact, de discuter.
Ah oui, mais attendez, là, vous mélangez les choses. C'est pas vous qu'on rejette, c'est la situation qui fait que c'est difficile de se rencontrer. Pourquoi vous prenez ça à titre personnel ?
Oui, oui, il y a la situation, mais je veux dire... Enfin, s'il m'arrive de discuter avec une personne dans la rue, là, je veux dire... La situation va vite... Enfin, je veux dire... Le contexte du dialogue va vite s'arrêter, quoi, voilà.
Bah,
vous comprenez ce que je veux dire, en fait.
Une fois de plus, vous mentionnez quoi, le contexte sanitaire ou le contexte humain ?
Non, le contexte humain, ne serait-ce que...
Ça n'accroche pas, vous voulez dire, là ?
Ouais, voilà, bien que maintenant les gens ont pris, bien sûr, le goût à avoir le masque, à avoir une certaine distanciation entre chaque personne.
Bah, le goût,
mais
je
c'est
sais
pas
mais
pour autant qu'il y en a qui discutent. Non, je veux dire, c'est pas pour autant que d'autres personnes discutent, et pour moi, en fait, j'ai cette impression de... Alors, je vais peut-être un peu fort dans mes paroles, mais de ne pas plaire, ou je sais pas, j'ai cette impression d'être, comme je dis, entre guillemets, c'est un peu fort le mot, mais rejeté, quoi, d'être...
Bah, j'ai l'impression que vous n'avez tellement pas confiance en vous que ça se sent de l'extérieur, et que c'est pas attirant, ça. C'est compliqué d'être attiré par quelqu'un qui ne se sent pas légitime, qui n'ose pas.
Ben, oser, des fois, j'ose parce que... Bon, ça m'arrive que des fois, dans la rue, on me demande un renseignement ou autre chose, et j'essaye d'aborder la personne, d'avoir un dialogue, comme je l'ai avec vous actuellement, et... Je sais pas, je dis j'espère qu'il y aura de meilleurs jours pour tout le monde. Mais depuis ma séparation, depuis ces 2 ans, en fait, je perds chaque jour un petit peu d'espoir, quoi,
de
connaître quelqu'un d'autre, quoi, voilà.
C'est peut-être un peu maladroit d'aborder quelqu'un qui vous demande juste un renseignement et qui n'est pas du tout ouvert à autre chose.
Oui.
Si
oui,
vous
bien
mettez
entendu.
Vous-même dans des situations comme ça, effectivement, ça peut être compliqué. Est-ce que vous êtes sur des sites de rencontres ? Est-ce que là, ça passe au moins la communication ?
Alors, j'étais sur des sites de rencontres. Je tombe parfois sur des fakes, des faux profils. Bon, je ne vais pas dire que c'est souvent, hein, c'est arrivé. C'est arrivé à quelques reprises. Et voilà. Et donc, par rapport à ça, j'essaie d'aller vers d'autres personnes sur Internet. Et beaucoup de personnes sont là juste pour, on va dire... discuter, se reconstruire par rapport à une histoire, bien sûr, de divorce récente ou de séparation. Et ça fait que ça ne, ça ne va pas plus loin, quoi, voilà. Ça ne, y a pas de, on va dire qu'il n'y a pas de suite, quoi. Il y a juste des paroles, un dialogue par Internet et ça s'arrête là, Sabine, quoi, voilà.
Et professionnellement, est-ce que ça va?
Alors, dans mon travail, franchement, ça se passe très bien. Hein.
Oui.
J'ai pas de,
là, ça va.
J'ai jamais fait de dépression par rapport à ça. Je me sens bien dans mon travail, autour de mes collègues ou d'autres personnes. Ça se passe très bien. J'ai pas de, je veux dire, je ressens pas de
rejet de ce côté-là.
De rejet, oui, exactement. Au contraire, il y a beaucoup d'entente, beaucoup de politesse les uns envers les autres. Voilà quoi. Après, le reste, c'est, voilà, je veux dire, ce qui me manque, voilà, c'est cette vie un peu, enfin, cette vie de solitaire que je mène et que j'aimerais rompre pour aller au-devant de...
Ouais. Alors, effectivement, il y a d'un côté ce contexte et sa personne n'y peut rien, il faut être patient. D'un autre côté, moi, je vous suggérerais d'aller voir non pas un thérapeute, mais un coach de vie. J'ai l'impression que ça vous ferait du bien d'avoir quelqu'un qui vous booste un peu et qui vous aide à relever la tête. Et j'ai le sentiment qu'il suffirait de pas grand-chose de quelqu'un qui vous redonne cette confiance-là dont vous avez besoin dans ce domaine sentimental.
Oui, on en a parlé un petit peu, ça, il paraît que ça peut aider.
Il me semble là qu'en ce qui vous concerne, ça serait vraiment bien. Quelqu'un qui soit vraiment là pour faire avec vous un peu un bilan de tout ça et pointer vos points forts et vous aider à avancer sur ce terrain-là, tout simplement.
D'accord, Sabine. Parce qu'en fait, on dit qu'en France, d'après les médias, on dit qu'il y a 18 millions de célibataires, ça fait quand même... Ça fait beaucoup de monde et...
Potentiellement, ça fait un marché assez grand, oui.
Ça fait un marché assez grand et... Les quelques fois où il m'est arrivé de parler avec... des personnes, en fait, voilà, on me dit toujours... J'ai mon petit ami, je suis en couple, donc je me dis, est-ce qu'il y a vraiment 18 millions de célibataires en France, quoi, ça fait... Le chiffre est quand même important, quoi.
Ça, j'en sais rien, je ne suis pas statisticienne, je ne connais pas les chiffres, mais je sais qu'il y a beaucoup
de
gens seuls, ça c'est sûr, on le sait.
Il y a beaucoup de gens seuls, et comme je vous dis, les quelques fois où j'ai pu rencontrer ou discuter normalement avec une personne... Sans aborder le sujet, la personne me dit je vis en couple, j'ai un petit ami. Donc je vois qu'en fait beaucoup de gens ne vivent pas seuls, quoi, en fait. Hein, à s'en détromper, voilà. Beaucoup de gens sont plus en couple que seuls, quoi.
Oui, ça c'est le coup du verre à moitié vide ou à moitié plein, ça dépend où on se place.
Exactement.
Vous, comme vous êtes à la recherche de quelqu'un, vous avez tendance à voir que ce qui ne va pas, c'est-à-dire que les femmes qui pourraient vous plaire ne sont pas libres.
Exactement.
Mais il y en a plein d'autres qui sont libres, forcément. Il y en a plein d'autres.
Il y en a plein d'autres, oui, mais...
Et pour l'instant, le problème, il n'est pas là. Je pense qu'il est plus dans votre manière à vous de penser les choses. Et c'est là où je pense qu'un coach pourrait vous booster un petit peu.
Ok, Sabine, c'est gentil de...
Pour que vous alliez... Que inconsciemment, vous alliez ensuite attirer des femmes qui sont les bonnes pour vous et qui seront libres et disponibles.
Oui, je l'espère, tôt ou tard, je l'espère. Oui. J'espère rencontrer une personne douce, gentille, en fait, voilà quoi, en fait, bien dans sa tête, bien dans sa peau, comme on dit.
Quelqu'un qui soit en phase avec vous.
Exactement. Oui.
Bah écoutez, si le timing est bon, trouvez quelques séances de coaching. Quand ce sera fini, le confinement sera levé, j'espère.
J'espère que pour le mois d'avril ou plus tard au mois de mai...
Qu'au printemps, la vie reprendra et ça sera le moment ou jamais de faire une belle rencontre.
Et j'espère, c'est gentil à vous, Sabine.
Moi, je suis persuadée que ça va le faire. Vous avez l'air de quelqu'un de gentil, de posé.
Oui,
je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui seront ravies de faire votre connaissance. Et d'ailleurs, je sais qu'il y aura aussi probablement des messages pour vous, donc on vous les transmettra si vous le souhaitez.
Avec plaisir, Sabine. Et longue vie à votre émission et celle d'Olivier sur Europe 1.
Une dernière précision, dans quelle région êtes-vous si ça intéresse certaines femmes?
Alors moi, je suis dans le sud-ouest, je suis à côté de Bordeaux, quoi, voilà.
D'accord, bah écoutez, on ne sait jamais. Si on a des contacts, on n'hésitera pas à vous les transmettre.
C'est très gentil, Sabine.
Et vous connaissez le principe, vous me racontez la suite un jour. Hein.
D'accord. Ok.
Merci de votre appel, Michael. Il faut qu'on se laisse, l'émission se termine déjà. Au revoir. Et oui, c'est...
c'est fini pour ce soir. Merci à tous d'avoir été là. Merci d'avoir appelé pour témoigner. Merci d'avoir partagé aussi votre expérience par SMS. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve vendredi prochain, car demain soir, c'est Olivier Delacroix que vous retrouverez. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que demain, lundi 8 mars, sera la journée des droits des femmes. Europe 1 consacrera donc une large part de son antenne à cette journée spéciale. Dans Culture Média, par exemple, Philippe Vandel traitera de la place accordée aux femmes dans les médias. Dans Sans Rendez-vous, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed nous parleront des secrets du cerveau féminin. Voilà un sujet intéressant. Dans Musique, Émilie Mazoyer vous proposera des concerts 100% féminins. Et puis demain soir, donc, sur votre libre antenne, eh bien, Olivier Delacroix offrira une large place à celles qui luttent pour les droits des femmes. Demain, 8 mars, journée nationale, journée des droits des femmes. Je vous quitte avec la phrase du jour. Tu es ce que tu fais et non ce que tu dis que tu feras. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Passez une bonne nuit. Et à vendredi prochain. Tu es ce que tu fais et non ce que tu dis que tu feras.